Eh bien, Dieu parle à nos cœurs, Dieu nous rafraîchit. Dans sa prière, il parlait des eaux qui sont desséchées. Et c'est peut-être ce matin, bien, notre sentiment, voire notre réalité. On a que l'impression et même une réalité que nos vies ont besoin de quelque chose qu'on n'arrive pas toujours à définir, mais on est comme desséché à l'intérieur. Et puis ce dernier chant qui nous dit, bien, que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi. Finalement, nos défis, et on va lire quelques versets d'introduction, c'est bien de mieux connaître Jésus, hein, de savoir qui il est, ce qu'il fait. Et j'aimerais juste introduire ce moment par deux psaumes, quelques versets pour ensemble partager une pensée. Psaume 42, d'abord versets 1 à 3. J'ai un titre dans ma Bible, c'est l'espérance en Dieu. L'espérance en Dieu. Hein, et ce texte nous parle d'une biche. Hier, on était se promener avec mon épouse dans la forêt, là. Et puis, à un moment donné, on a identifié ça à deux renards, voilà, qui étaient assez loin de nous. Et puis, quelques centaines de mètres plus tard, c'était des biches. Alors, il y en avait deux, mais en pleine forme, hein, parce qu'on n'a pas eu le temps, bien sûr, de courir après. Elles ont traversé devant nous. Alors, est-ce qu'elles venaient de s'être abreuvées ou elles allaient à un point d'eau? Mais en tout cas, une vitalité extraordinaire. Et ce psaume nous parle justement de cette réalité. Et puis, le partage de ce matin. Comme une biche soupire après des cours d'eau, des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il y a un parallèle entre la biche qui a besoin de se désaltérer, et puis nous-mêmes qui avons besoin de Dieu, non seulement pour exister, mais entrer dans cette communion, cette relation avec Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Ici, c'est identifié comme un descendant de Corée, un homme, un inconnu, mais qui exprime là aussi, bien, dans sa vie, ce besoin de connaître, de vivre quelque chose d'intense, d'intime avec Dieu. Même pensée dans le psaume 63, versets 1 à 2. Là, c'est David qui écrit ceci, la même pensée. Et lui, il va vivre, je ne sais pas si un jour vous avez vécu dans un moment de désert, un moment de soif, voire de déshydratation, c'est encore pire. Hein. Et voilà ce que David va écrire. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. » Et j'ai intitulé ce partage « Persévérer à préserver notre communion avec Dieu. Persévérer à préserver notre intimité avec Dieu. » On a laissé Moïse, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, la semaine dernière, être vainqueur. On a parlé justement de ce combat qu'il mène avec Aaron, Hur, et puis il y a Josué dans la vallée. Et puis on l'a laissé, bien sûr, nous guider dans cette victoire. Et finalement, bien, ce matin, chacun d'entre nous, nous avons aussi nos combats. Hein, nos combats. Alors, juste une précision, il n'est pas question de parler, bien sûr, d'un défi physique, hein, de se battre physiquement contre quelqu'un. La Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais effectivement, contre ces dominations spirituelles qui nous empêchent de connaître Dieu, de connaître son espérance, de connaître son amour. Et c'est ça le sens du combat. Et dans nos textes, eh bien, on le sait, l'eau, c'est le symbole de la vie. Hein, l'eau, c'est le symbole de la vie. Et notre combat principal, que nous soyons croyants ou pas, finalement, eh bien, c'est de découvrir cette relation avec Dieu et puis ensuite de la préserver. De la préserver. Parce que, comme notre corps a besoin d'être déshydraté, hein, plusieurs fois par jour, eh bien, notre âme, notre esprit a besoin aussi d'être déshydraté. Hein, il va être vite pollué, le moral, le mental, etc., le spirituel. Et peut-être que ce matin, nous avons certainement nos propres combats en tant que croyants pour préserver et partager nos valeurs de foi autour de nous, hein, l'espérance, l'amour de Jésus. Et puis peut-être que si nous ne croyons pas encore, eh bien de découvrir, hein, qui est ce Dieu, qu'est-ce qu'il peut agir et faire aussi dans ma vie. Il y a le Proverbe 4, 23 qui nous dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui découlent les sources de la vie. » De lui découlent les sources de la vie. Alors on va ce matin voir à travers l'histoire d'un homme qui s'appelle Isaac. Vous connaissez peut-être cet homme dans la Bible, c'est le fils d'un certain Abraham. Et on va voir, on va laisser Isaac nous guider. D'abord, dans quel contexte Isaac va-t-il veiller sur des sources d'eau, sur des puits? Ensuite, on va voir quelle stratégie l'ennemi va essayer de développer pour l'empêcher de se désaltérer, pour l'empêcher bien de vivre cette réalité. Et puis la dernière chose, surtout comment Isaac va agir pour ne pas se laisser priver d'eau, pour ne pas se laisser assoiffer, pour ne pas se laisser déshydrater. Alors, on va lire quelques versets au fur et à mesure. On va prendre nos Bibles dans Genèse 26. Voilà, en Genèse 26. Et on va découvrir le contexte dans lequel, eh bien, Isaac va devoir préserver cette eau, ces puits qui sont là. Il en a besoin pour sa famille, il en a besoin pour ses troupeaux, et il devra bien sûr les préserver. Le contexte, eh bien, on lit Genèse 26, 1 à 6, nous dit ceci. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimélec, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, je te donnerai toutes ces terres à toi, à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Parce qu'Abraham m'a obéi, qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois, Isaac resta donc à Guérar. » Alors, dans ce texte, dans quel contexte Isaac va-t-il devoir préserver ses puits? Eh bien, la première chose qu'on lit, tout commence par une famine. On a dans ce texte, au premier verset, « Il y eut une famine dans le pays ». Et dans l'histoire de la famille d'Isaac, d'Abraham, eh bien, c'est la deuxième qui est vécue. En effet, il est précisé que Abraham, le père d'Isaac, va déjà en vivre une première. Alors, bien sûr, Isaac, à l'époque, n'est pas né, il ne la connaît pas, mais c'est comme dans toutes les familles, on va lui raconter. On a tous, ce matin, des histoires de nos grands-pères, de nos grands-mères qui ont remonté parfois des générations. Et puis, ça, on aime bien, en tant qu'enfant, que petit-enfant, prendre du temps, puis écouter les histoires d'un autre temps. Ça nous nourrit, etc. Et bien sûr, Isaac, eh bien, va entendre ce récit de cette première famine. Mais désormais, c'est lui qui est confronté. Désormais, c'est Isaac qui va vivre cette histoire. Alors ce matin, une première pensée pour nous, c'est qu'on hérite tous d'une histoire familiale qui est plus ou moins compliquée. S'il fallait nous interroger les uns les autres, eh bien on pourrait tous être d'accord. C'est vrai qu'il y a dans nos familles, eh bien des histoires qui sont compliquées. Et ça peut remonter aux parents, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, etc. C'est pas un reproche, c'est un fait. C'est comme ça. Toutes nos familles, il y a des histoires de famine. Et quoi qu'on en pense, eh bien que ce soit avec de la joie ou de la souffrance, eh bien ça va nous marquer, ça va nous former. Sans jeu de mots, ça peut nous déformer, ça va nous façonner, et ça va faire finalement ce que nous sommes aujourd'hui, nos histoires de famille. Je le répète, c'est pas un reproche, c'est un fait, c'est comme ça, et on en tient compte. Et il faut en tenir compte, bien sûr, parce que si on veut persévérer pour préserver notre intimité avec Dieu ou la découvrir, eh bien, il faut en tenir compte. C'est un héritage dont, bien sûr, eh bien, nous avons hérité. Et quelques-unes de nos habitudes, de nos attitudes, de nos réactions, de nos pensées, eh bien, découlent de cet héritage familial. Ça découle de cet héritage familial. Ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a cru entendre, ce qu'on a cru comprendre, ce qu'on a deviné, ce qu'on a surpris, ce qu'on a découvert, ça modèle notre identité. Ça modèle ce matin bien nos réactions, ça modèle nos pensées, ça modèle la manière dont nous agissons, nous interagissons avec les autres. Oui, il y a quelque chose, bien sûr, et Isaac n'échappe pas. Et on le voit dans ce texte parce que la première pensée dans cette famine pour Isaac, ça a été de dire, eh bien, je vais aller en Égypte. Pourquoi? Eh bien, parce qu'Abraham, lui, à cette première famine, pour sauver sa famille, il était parti en Égypte, là où il avait à manger. Alors, Isaac, dans sa tête, il va dire, eh bien, moi, je vais aller en Égypte, comme mon père, le récit est ainsi, je vais faire comme lui. Tel père, tel fils, vous connaissez? Telle mère, telle fille. Pourquoi on ne dit pas telle mère, tel fils ou tel père, telle fille? Il y a aussi des liens entre, hein, n'est-ce pas? Ben oui, on a des filles qui nous ressemblent, nous, en tant que père, et on a des fils qui nous ressemblent, vous, en tant que mère. C'est normal, hein, les caractères, l'héritage est croisé, et c'est bien comme ça. Et c'est bien comme ça. Et Isaac, il réagit comme ça. Mais c'est là que Dieu va intervenir pour lui apprendre à lui faire confiance, à dépendre de lui dans sa situation, de soumettre ses pensées, sa réaction. Et j'aimerais juste nous encourager ce matin, Proverbes 3, 5, 6, on va l'afficher. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Quel que soit notre système de pensée, quelles que soient nos réactions, et là encore, c'est pas un jugement, parce que parfois on peut prendre des décisions parce que ben, nos parents ont pris de telles décisions. Eh bien, Dieu aussi veut intervenir et puis nous dire, eh bien, écoute, là, pour toi, dans cette situation, t'es pas obligé de faire comme ton père ou ta mère. Tu peux avoir de l'espérance, tu vas avoir une autre orientation. Et il n'y a pas comme une malédiction qui est sur toi toute ta vie. Mais tu peux faire d'une autre manière. Tout va commencer par une famine. Et à partir de cette famine, eh bien, Isaac va se laisser conduire par Dieu et apprendre à préserver donc cette intimité. Apprendre à préserver cette relation avec le Seigneur. Ensuite, tout va reposer sur une parole de Dieu, sur une promesse de Dieu. On l'a lu ensemble, hein. Dieu dit donc à Isaac, ne descends pas en Égypte, mais, eh bien, je te bénirai dans le pays que je vais te montrerai. Et là, il lui montre toute l'étendue de sa bénédiction. Et c'est une parole, bien sûr, et qui, comme souvent, elle est surprenante, elle est étonnante, hein. Je dis souvent, mais pourquoi pas toujours? La parole de Dieu est en tout cas toujours étonnante. Quand on regarde une carte et puis un petit peu l'histoire d'Isaac, eh bien, Dieu va dire à Isaac de s'installer en plein pays des Philistins. Et le pays des Philistins, eh bien, les Philistins, ça va être les ennemis ensuite jurés d'Israël. Alors, pour l'instant, on n'en est pas là, ça va commencer, on va le voir. Mais Dieu dit finalement, bien, oui, tu vas rester ici, et c'est dans ce contexte hostile que je vais te bénir. C'est dans ces difficultés, c'est dans ce contexte difficile, là où il y a des gens qui vont être hostiles, que je vais te bénir. Et c'est là qu'il faut que tu restes. C'est une promesse. C'est une promesse que Dieu fait. Et ce matin, bien, pour nous également, Dieu veut nous rappeler quand même une promesse qu'il nous fait. C'est dans Jean 17. Hein, versets 14 à 19, on va pas tout lire, mais simplement, ces réalités, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et puis, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ce matin, nous ne sommes plus du monde, mais vous avez remarqué, on est encore dans le monde. On vit comme les autres, hein, tout à l'heure peut-être, ou avant le culte, vous allez aller chercher votre pain à la boulangerie, etc. Et puis tout à l'heure, vous aurez un dîner, pas un dîner, parce que le dîner, c'est le dîner en Suisse, d'accord. Donc tous en Suisse pour le dîner, voilà, on appelle ça comme ça. Mais voilà, vous allez vivre quelque chose de tout à fait normal. On est intégré à notre société. En tout cas, c'est une réalité, mais pas à n'importe quel prix. Mais quand même pas à n'importe quel prix. On est intégré dans la société, bien sûr, à la mesure de notre intégrité en Christ. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que dans la société dans laquelle je suis, là où j'habite, là où je travaille, je vais partager les valeurs de Christ, sa grâce, son amour, son espérance, sa joie, sa paix, et je veux me comporter comme un disciple. Et dans ce cadre, eh bien, je vais m'intégrer avec, bien sûr, les valeurs de Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, comme pour Isaac, Dieu nous promet ce matin de mettre à notre disposition, dans des contextes qui sont parfois hostiles, difficiles, eh bien, il met à notre disposition tout ce qui va contribuer à notre épanouissement, tout ce qui va nous permettre de nous désaltérer, Tout ce qui va nous permettre de rafraîchir notre âme, notre esprit, afin que malgré les pressions morales, spirituelles, les défis autour de nous, nous puissions continuer à nous épanouir en Jésus-Christ. Et puis, pour terminer ce premier point sur le contexte, eh bien, dans Genèse 26, 6, il y a un dernier point qui est important. Tout va dépendre de l'obéissance d'Isaac. La Bible nous dit qu'en entendant cela, eh bien, Isaac, il va rester à Guérar. Il va s'installer à Guérar. Guérar, ça veut dire séjour. Voilà, ça veut dire séjour. Est-ce que vous savez combien d'années Isaac a vécu? Bon, moi, je l'ai lu dans la Bible, hein, donc j'ai un petit peu d'avance sur vous. Hein. C'est un bel âge, hein. C'est un bel âge. 180 ans. Pas mal, hein. Oui, bon, maintenant, pour atteindre, on avait une Jeanne Calment, je crois, hein, 100, 130, 135, il me semble. 160 ou... Oui, ah, peut-être, oui. Hein. Oui, moins de 130 quand même. C'est déjà pas mal, hein. Bon. Mais ici, 100, et il est dit ceci dans Genèse 35, Isaac vécut 180 ans, expira, il mourut, il alla rejoindre les siens, alors qu'il était âgé et rassasié de jours. Durant tout son périple ici-bas, sur cette terre, hein, il a un petit peu bougé, il est resté surtout dans cette région de Guérar, comme Dieu l'avait dit, bien, Dieu va l'accompagner. Dieu va l'accompagner. Et finalement, qu'est-ce que la fin d'Isaac nous rappelle? Eh bien, c'est que comme Isaac, nous sommes ici-bas de séjour. On est en séjour. Hein, on est finalement de passage, et pour seulement quelques années, hein, même si on espère vivre 80, 90, 100 ans, etc., face à l'éternité, c'est rien, c'est rien. Et ça veut dire quoi? Que notre résidence principale, elle est là-haut. Dieu nous prépare une résidence principale. Ici, allez, on va dire, c'est une résidence secondaire. Ben, quand même, hein, vous avez payé des taxes, hein, sur les résidences secondaires, hein, etc. Mais ici-bas, c'est une résidence secondaire. Le problème pour certains, c'est qu'ils inversent. Et ils pensent que leur résidence principale, c'est ici-bas, et que là-haut, peut-être, il y aura une résidence secondaire. Et puis, de toute façon, il y en a une ou il n'y en a pas, bon, peu importe, on verra bien. Mais c'est pas ce que Dieu nous dit à travers Isaac, il nous dit que sa résidence principale, elle était là-haut. Et ici-bas, on n'est que de séjour, on n'est que de passage. Matthieu 16, 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il venait à perdre son âme? Quand même une réflexion importante que Jésus nous laisse, hein, ce matin. Ça servira à quoi? Hein, d'être le plus riche du monde. Vous connaissez qui est le plus riche du monde, hein? Il a perdu quand même quelques milliards, hein, avec ses histoires de voitures, etc. Mais on prie pour lui, on espère que lui aussi, bien, a une assurance éternelle. A une assurance éternelle. Par contre, Hébreux 5:9 nous dit, après avoir été élevé à la perfection, Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, comme Isaac, l'auteur d'un salut éternel. Ça, c'est notre foi ce matin, d'avoir cette espérance dans un Dieu qui est vivant. Et voilà le contexte dans lequel, malgré tout, Isaac va persévérer pour préserver son intimité avec Dieu, sa communion avec Dieu. Mon frère, ma sœur, ce matin, oui, tu vis peut-être dans un contexte difficile. C'est peut-être familial, c'est peut-être au travail, c'est peut-être dans le quartier, c'est peut-être intérieur, etc. Mais souviens-toi de l'histoire d'Isaac. Malgré ce contexte aussi difficile, eh bien, Dieu va être avec lui. Dieu va le fortifier, Dieu va l'aider et Dieu va tenir sa promesse. Amen. Ne baissons pas les bras ce matin, mais au contraire, eh bien, faisons confiance à notre Seigneur. Et puis la suite, deuxième pensée, comment les ennemis vont-ils essayer de déshydrater, d'empêcher Isaac de nourrir, de veiller sur sa famille et puis sur ses troupeaux, hein? Parce qu'il est dit qu'il avait des troupeaux et ça prenait bien sûr. Et puis il va également donc grandir, parce que il est dit aussi qu'il va semer et ça demande un petit peu d'eau également. Mais pour tout ça, il a besoin d'eau. Et comment l'ennemi va-t-il s'y prendre pour essayer, eh bien, de le déshydrater, de l'assoiffer? Genèse 26, versets 12 à 15 nous dit ceci. Isaac fit des semailles dans le pays. Il récolta le centuple cette année-là. Vous vous rendez compte? Quand Dieu est avec nous, l'Éternel l'avait béni. Cet homme devint riche Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux, des petits, de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Voilà. Et puis, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père d'Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Voilà. Hein? Ils vont les combler en les remplissant de terre. Les puits creusés par Abraham, le père de la foi. Et on pourrait dire ce matin qu'une première stratégie de l'ennemi ou de nos ennemis, c'est de chercher à enterrer, à étouffer notre foi. Enterrer, à étouffer notre foi. Alors ce sont les épreuves de la vie, c'est peut-être la maladie, peut-être des souffrances, c'est peut-être de l'opposition, c'est peut-être de l'échec, c'est peut-être une recherche insatisfaite du spirituel, d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Mais tout cela, bien finalement, ce sont des moyens pour étouffer notre foi, pour nous empêcher de nous épanouir. Luc 8, 14, c'est la parabole des terrains. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole de Dieu, mais qui en cours de route, en cours de leur séjour, ici-bas, on va dire ça comme ça, ils la laissent étouffer par les préoccupations, par les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Et la parole de Dieu, bien, est étouffée, elle est enterrée, elle est piétinée, et ainsi, bien, la foi, donc, est comme enterrée. Connaissez l'histoire du père Martin et de son vieil âne? Le père Martin, il a un âne, ça fait des années, bien sûr, il a vu grandir cet âne, il s'en est servi, et puis, avec beaucoup d'affection, ils ont travaillé ensemble, et puis, à un moment donné, bien, arrive le moment où le vieil âne commence vraiment à devenir vieux, et très vieux, il faut que le père Martin s'en sépare. Alors, il ne veut pas le conduire à l'abattoir parce que il y a encore ce sentiment. Et puis, il se dit, mais comment, eh bien, je peux l'aider là aussi à passer de l'autre côté parce qu'il est vieux, etc. Et il dit, bien voilà, la seule idée qu'il a, j'ai creusé un gros trou, une grosse fosse, je le mettrai dedans, et puis après, eh bien, je l'enterrerai, mais de dos parce que je peux pas voir ça. Voilà, c'est quelque chose qui me fait de la peine. Alors donc, il va faire un grand trou. Et puis, il va hisser son âne, malgré tout, avec beaucoup de délicatesse, etc. Et lui dit au revoir. Et puis, il commence à pelleter, donc, et à envoyer la terre pour enterrer son âne. Et alors, eh bien, il le fait. Et puis, lorsqu'il a plus de terre, ben, ça y est, c'est fini, il est triste. Il se retourne, et là, surprise, que voit-il? Son âne. Il dit, mais, et finalement, l'âne, qui est pas si bête que ça, on dit, hein, bête comme un âne, mais là, il était pas si bête que ça. À chaque fois qu'il y avait une pelletée de terre, eh bien, il s'en servait pour faire l'ascenseur, pour monter. Et finalement, il est remonté à la surface. Et c'est peut-être votre situation ce matin, la foi qui diminue, l'accès à la source qui est comme bouchée, qui est comme restreinte, mais on le verra tout à l'heure, eh bien, Isaac s'en est sorti. Isaac a persévéré. Et quelque chose s'est passé pour que, je vais pas vous comparer à un âne, hein, mais on remonte à la surface. On remonte à la surface, malgré les épreuves et malgré le fait que nos ennemis veulent étouffer, veulent enterrer notre foi, notre joie, notre espérance de connaître Jésus. Genèse 26, 19-20, un autre moyen que les ennemis vont utiliser ici. Genèse 26, 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore d'autres puits. Et puis, il est dit ceci, dans la vallée, ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Là, littéralement, c'est le puits de la dispute. C'est le puits de la discorde. Vous connaissez ça? Non, hein, personne ne connaît. Hein. Dispute, discorde, c'est toujours les autres. Hein. Un jour, on m'avait demandé aussi d'intervenir dans une autre assemblée qui avait quelques soucis. Et j'avais prêché sur corde de discorde ou de miséricorde, à nous de choisir. Corde de discorde ou de miséricorde, à nous de choisir. À nous de choisir. Quelle corde, hein? Je pense tout de suite à ceux qui s'entraînent, vous savez, dans les, je sais pas comment on appelle ça, là. Ils ont des cordes, ils font des machins, vous avez du cross. D'accord, voilà, hein. Donc ils ont des cordes et puis, ça, il faut être costaud, à mon avis, hein. Voilà. Hein? Bon. Mais parfois, à nous de choisir la corde. Est-ce qu'on utilise la corde de la discorde ou la corde de la miséricorde? C'est pas la même, hein? Et c'est pas les mêmes effets. En tout cas, ici, bien, la dispute, la discorde, c'est une œuvre essentiellement, vous savez, de notre chair, de nous, de notre caractère, hein? On en parlait encore mardi, l'origine un petit peu des disputes, des divisions. Et on était tous tombés d'accord, et bien que c'était nous d'abord, voilà, hein, ce que je suis, mon caractère, j'ai raison, etc. Et puis, eh bien, en parallèle, si je suis dans cette position, c'est parce que je suis éloigné de Dieu. C'est parce que je ne suis pas désaltéré, c'est parce que j'en suis éloigné, je ne suis pas dans sa présence pour réagir ainsi. Et finalement, alors, on sait très bien que l'adversaire est là aussi pour attiser, pour susciter les discordes. On est bien d'accord. Mais on le disait aussi, il faut pas tout mettre sur le dos du diable, hein. On a nos responsabilités. Et on sait très bien que dans Galates 5, 19, eh bien, il est question des œuvres de la chair, hein, de notre nature, des querelles, des jalousies, des colères, des rivalités, des divisions. Voilà. Alors, ici, le sens dispute ou discorde, c'est pas le fait d'un échange vif, parfois bon, hein, un peu se monter sur nos grands chevaux, etc. Un débat contradictoire, on veut à tout prix imposer nos idées. C'est pas ça ici. Il est question plus d'un état d'esprit. D'un état d'esprit. J'ai dans les proverbes deux références sur les hommes et sur les femmes, concernant les querelles et les colères. Par qui on commence? Honneur aux dames? Alors, honneur aux dames. J'ai pris exactement le même nombre de versets, hein, pour qu'il n'y ait pas de polémique après. Proverbe 21, 9, 19, Proverbe 25, 24, Proverbe 27, 15, ça fait quatre proverbes. Nous mettons en garde contre la femme querelleuse. Alors, j'ai trouvé la même chose pour les hommes. Proverbe 15, 18, 22, 24, 27, 17 et Proverbe 29, 22, il y a quatre versets aussi. Nous mettons en garde comme l'homme colère. D'un côté, on a la femme querelleuse et l'homme colère. Ça ferait un beau mariage, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Hein, je ne sais pas ce que vous adorez comme enfant. D'un côté, vous avez la femme. Et l'autre côté, l'homme colère. Bon, voilà. Allez, on les unit. Et je ne sais pas ce que ça donne. Mais ici, il est bien question d'un état d'esprit. Est-ce que vous connaissez l'expression un esprit de contradiction? Vous pouvez dire à la personne c'est blanc, il voudra dire c'est noir. Vous pouvez lui dire c'est noir, à un, c'est blanc. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, hein, ben elle rigole, c'est ce que c'est. Hein. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, de toute façon, c'est comme ça. Ce sera toujours le contraire d'un esprit de contradiction. La querelle, la dispute, ça ne colle jamais. Alors, que nous dit Jacques 3, 14, 15? Il nous parle d'un zèle amer. Et à mon avis, en tout cas pour moi, l'amertume, ça n'a jamais désaltéré personne. On dit que si, c'est vrai que vous avez soit un petit peu de citron, etc. Je sais pas, mais on se souvient de l'épisode de Mara dans Exode 15, hein, où le peuple est assoiffé, il vient de traverser le désert, et là, il tombe sur une mare, etc. Et c'est pas bon, c'est amer. Hein, ils sont pas contents. L'amertume n'a jamais désaltéré qui que ce soit. Et pourtant, bien, l'ennemi veut nous aider, là aussi, parfois, à nous extraire de la présence de Dieu par la dispute, les querelles. Et puis Genèse 26, 21, il y a encore celui-ci, Genèse 26, 21, nous dit ceci, c'est un autre puits. Alors ils persévèrent, hein, les bergers de Guérard cherchèrent querelle au berger d'Isaac, l'eau est à nous, il appela le puits Ézec parce qu'on s'était disputé avec lui, ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il appela Sitna, voilà, Sitna. Sitna, ça veut dire accusation. Ça veut dire même haine. Le puits de l'accusation, le puits de la haine. Ben, là encore, hein, on est également toujours sur le terrain du caractère qui va se manifester dans l'accusation, dans la haine, même s'il est rappelé également que le diable est l'accusateur des frères, on est bien d'accord. Mais là encore, il est essentiellement, bien sûr, des œuvres de la chair. Hein. Galates 5, 19 nous parle de haine, nous parle de meurtre. Nous parle de haine, nous parle de meurtre. On se rappelle de l'histoire de Cain. Vous vous rappelez, hein? Abel et Cain. Ils font tous les deux une offrande à Dieu. Et puis donc, Cain, donc, son offrande n'est pas agréée par Dieu. Et alors, eh bien, son visage change. Et Dieu va lui dire ceci. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi abordes-tu, arbores-tu, pardon, un air sombre. Certainement, si tu agis bien, tu vas te relever. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Et on sait bien, malheureusement, que Caïn n'a pas dominé, Dieu l'avait averti, et puis il va tuer son frère. Persévérer à préserver notre communion avec Dieu. Alors, comment? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant, l'attitude d'Isaac. Et c'est peut-être votre question ce matin, on dit, ben c'est bien beau tout ça, mais comment garder ma communion avec Dieu? Comment peut-être la découvrir? Comment découvrir cette espérance, cette paix, cet amour, ce pardon dans mon esprit? Ça travaille. Il y a encore de la culpabilité. Il y a peut-être des choses que je regrette d'avoir fait dans ma vie. Comment être désaltéré? Comment être cette biche qui gambade dans la forêt et puis qui est libre parce qu'elle est désaltérée? Parce que, bien, désormais, son corps est plein de vigueur. Eh bien, on retourne dans notre texte et on va conclure dans Genèse 26, verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Isaac va remettre à jour les puits creusés par son père. Il va les désencombrer. Ces puits, alors de tout ce que les Philistins avaient jeté, moi, je sais pas, imaginez, on vous dit, bien voilà, il faut surtout empoisonner, boucher les puits pour que cet Isaac ne puisse pas faire boire ses troupeaux et sa famille. Qu'est-ce qu'on aurait mis dedans? Qu'est-ce qu'on aurait mis dedans? Tout ce qu'on aurait trouvé de sale, de lourd, etc., des cailloux, des rochers, de la terre, je ne sais pas ce qu'ils avaient à l'époque, peut-être des déchets, des détritus, et on met tout ça dans les puits. Et on est sûr ainsi, bien que c'est bouché, que jamais on n'osera relever cela. Pourtant, eh bien, Isaac va demander à ses serviteurs de faire ce travail, de désencombrer les puits que les Philistins donc avaient comblés. C'est un travail qui est pénible. Je pense à Yves, sans entrer dans les détails, qui des fois doit désencombrer des petits tuyaux ou des gros tuyaux. Demandez-lui, à n'importe quelle heure, etc. Et puis, dans des conditions qu'il vaut mieux pas décrire avant le repas, peut-être après le repas, si vous voulez. Vous peut-être un petit coup de téléphone à Yves. Mais voilà, et il faut, excusez-moi l'expression, mettre les mains dedans. Et puis, eh bien, déboucher tout ça. Et c'est un travail qui n'est pas agréable. C'est un travail qui demande des efforts également, bien sûr, ne serait-ce que pour bien mettre à jour tout cela, et ainsi. Alors, à part un cas extrême de déshydratation sévère, on est obligé de vous faire une perfusion, voilà, parce que vous ne pouvez plus bouger, vous êtes desséché, etc. La moindre des choses, pour être désaltéré, quand on vous propose un verre d'eau, c'est quoi? Ben oui, c'est le prendre et puis le boire. C'est le plus petit des efforts, voilà, de prendre. Pourquoi je dis ça? Moi, il y a deux proverbes qui sont extraordinaires. Proverbe 19-24. Le paresseux plonge sa main dans le plat. À l'époque, on mangeait les mains dans le plat. Maintenant, tu prends une fourchette, toi. Oui, quand même. Il vaut mieux. Ne me fais pas un truc comme ça tout à l'heure en disant, ben voilà, moi j'ai entendu ce matin quand on mettait les mains dans le plat, tu prends une fourchette et un couteau. Voilà. Et là, on imagine que ce paresseux, il plonge sa main dans le plat, et puis il dit ceci, il ne la ramène pas à sa bouche. Bon, c'est déjà curieux quand même. Alors, il y a l'explication dans un autre proverbe, proverbe 26-15, le paresseux plonge sa main dans le plat, et puis il dit, il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Non, mais vous vous rendez compte un petit peu, vous voyez un petit peu l'image, Voilà, je trouve ma main dans le plat. Moi, c'est une forêt noire. Moi, j'aime bien la forêt noire. Imaginez comment je mets ça. C'est pénible. Voilà, mettre un bouche. Non, je ne vois pas ça, moi. Je ramène, bien sûr, et puis je mange. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que, pour que ce matin, nous puissions nous désaltérer à la source d'eau vive qui est en Dieu, qui donne de la joie et de l'espérance. Il y a un minimum. Eh bien, c'est de nous approcher de lui. Et on va voir ce que dit Pierre. Par exemple, 2 Pierre 1, 3, 8. Ça vaut le coup quand même de lire ce texte. Il est long, mais Sa divine puissance doit donner tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui. Donc c'est Jésus qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Voilà, imaginez que Dieu nous dit bien voilà, il y a une source d'eau qui ne tarit jamais, qui est toujours en hiver, en été, à même débit, et chacun d'entre vous, vous pouvez vous y abreuver. Voilà, elle est à Saint-Louis, je vous donne l'adresse, il n'y a qu'à y aller. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La suite nous dit ceci, et c'est là qu'on arrive, à cause de cela, cette source, elle est là, elle est à Saint-Louis, mais faites tous vos efforts. Bien voilà, je vous donne l'adresse, maintenant, ben, c'est à vous d'y aller. Allez-y. Il y a parfois dans certaines forêts des gens qui se promènent avec des bouteilles. Ils vont à la source, j'ai jamais vu ça. Hein. Et puis donc, ils prennent de l'eau, etc. Alors, faut surtout que l'eau soit bien potable, hein. Mais quand l'eau est bien potable, etc., je sais qu'il y en a une à Vattevillers, par exemple. Il y a une source qui coule comme ça. Et on voit souvent les gens qui viennent avec leur jerrycan de 5 litres, 10 litres, et puis qui s'abreuvent. Ben, ils font un petit effort. Voilà, un petit effort. Hein, ils prennent soit la voiture, ils mettent les bidons, mais ils y vont. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science la tempérance la patience, la patience la piété. On continue. La piété l'amour fraternel la charité. Si ces choses, pardon, sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour être abreuvé à cette source, pour être désaltéré, pour ne pas vivre déshydraté. Seigneur, tu m'as donné la source, eh bien, je m'approche de toi. La Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Faites un effort. Le minimum des efforts. Mais faisons cet effort. Et ce matin, finalement, bien, désencombrons également notre vie pour privilégier notre relation avec Dieu. Il y a peut-être encore des pierres de l'incrédulité, des cailloux, des détritus, des choses qui nous salissent l'esprit, qui nous polluent, etc. Eh bien, là aussi, Seigneur, voilà, moi, je me séparais de ça. C'est vrai que ça m'a marqué. Alors, je m'approche de toi parce que moi, je vais être désaltéré, désencombré. Et puis ensuite, Genèse 26, 19 et 21 nous dit ceci. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et trouvèrent un puits d'eau vive. La contestation. Verset 21, « Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on cherchait encore querelle, etc. etc. » Isaac va faire creuser de nouveaux puits. Non seulement il a mis à nouveau en valeur le travail qui est fait par son père, il ne le néglige pas, bien sûr, mais il tient aussi à participer à l'entretien puis à l'extension de ce réseau. Sa famille grandit, ses troupeaux grandissent, il a besoin de plus d'eau finalement. Il ne va pas simplement se reposer sur les acquis d'Abraham, mais il a aussi une vision pour sa génération, une vision pour sa famille, une vision pour que là aussi ses troupeaux puissent bénéficier de cette eau. Il a une vision d'extension des biens que Dieu lui a donnés. Chaque génération, sans mépriser ce qui nous a été laissé par la génération précédente, doit aussi se prendre en charge spirituellement, doit aussi, elle aussi, vivre ses expériences avec Dieu, se charger de sa croix, se responsabiliser. C'est bien de s'appuyer sur les prières de certains frères et sœurs, de nos parents, et c'est bien, et c'est juste, mais à un moment donné, il faut que moi, alors, en tant que jeune, moins jeune, etc., eh bien, je me prenne en charge. Et Isaac, eh bien, il va se prendre en charge. Il a une vision d'expansion, de partager un petit peu cette réalité. Et alors, eh bien, ce matin, dans notre génération, on a besoin d'avoir cette même vision. Vous avez remarqué qu'on ne vit plus comme il y a 20 ans. Vous avez remarqué ça, hein? Surtout les jeunes. Hein? Est-ce que les jeunes, tu as connu les cassettes, la cassette audio, tu sais, le petit truc qu'on met avec une bande qui... T'as pas connu ça? C'est extraordinaire, quand même. Qu'est-ce que vous n'avez pas connu encore? On a le Walkman. Ah, vous vous rappelez le Walkman? Hein? On avait, allez, avec les piles, il fallait changer toutes les heures parce que Les piles, on les mangeait, etc. Moi, j'avais même retrouvé, mais ça revient tout à la même, là, un espèce de gramophone, vous savez, c'était mon grand-père qui m'avait laissé ça, avec une pointe, carrément une pointe d'acier, hein, sur le 10, et puis, hein, c'est extraordinaire, ça, hein, mais en 20 ans, en 20 ans, mais ça revient pas, le Walkman, non, non, c'est sûr, ça revient. Les disques en vinyle, ça revient. Les disques en vinyle, ça revient, mais en 20 ans, même on pourrait dire en 10 ans, hein, en 10 ans, hein, maintenant on parle de l'IA, etc., etc. Les temps changent, on est bien d'accord, les temps changent, les sociétés aussi. Nous les vieux, on vieillit, les jeunes, ils rajeunissent. Voilà, c'est extraordinaire quand même, hein, les choses comme ça. Mais, la source d'eau vive, elle demeure éternellement. Elle reste la même. Alors, je le rappelle quand même quelque chose, il n'est pas question ce matin d'adapter les fondements de notre foi, de dire, ouais, ben c'est vrai, puisque la société évolue, elle pense comme ça, eh bien moi, en tant que croyant, je vais aussi m'adapter, je vais penser comme elle, etc., etc. Non, le fondement pour nous, c'est la parole de Dieu. Elle reste parole de Dieu, bien sûr. Hein. Elle reste parole de Dieu. Mais ce que Isaac nous rappelle ce matin, ce qu'il nous montre, eh bien, il nous montre de chercher à creuser de nouveaux puits. Ça veut dire quoi? Eh bien, des nouveaux moyens, des moyens adaptés à notre génération pour partager le même évangile, la même foi, la même espérance, le même salut, le même pardon des péchés, la même joie. Mais des puits nouveaux. Un puits nouveau que je ne maîtrise absolument pas et je comprends rien, c'est le puits nouveau des réseaux sociaux. Alors, il y a TikTok, il y a Tactique, il y a WhatsApp, je sais pas quoi. Enfin bon, moi, j'y connais rien. J'y connais rien. Mais béni soit Dieu pour les jeunes, eh bien, qui là aussi sont sur ces réseaux sociaux, et puis qui amènent, qui donnent la possibilité aussi à d'autres de tourner vers Jésus. Gloire à Dieu. Et puis il y a tellement de puits, parfois, qui nous déroutent. Des déroutes. Il y a, je crois, même en France, hein, il y a des clubs de motards, voilà, qui rentrent dans les églises avec leur moto. Enfin, ça, c'est en Amérique, hein. Je vois, moi, c'est un puits qui me dérange un petit peu, ça. Moi, hein? Bon. Alors, on en pense qu'on en veut, mais si, malgré ces motards qui rentrent en moto dans leurs églises, avec des croix dans le dos, etc., et parfois des grosses boucles d'oreilles, l'évangile est annoncé, l'évangile, vraiment, hein, le pardon des péchés, je parle pas d'un autre évangile, ben, moi, je dis gloire à Dieu. Le puits, oui, le puits, c'est pas celui qui me convient à moi, mais la source en bas, bien oui. Alors il est taillé d'une autre manière, il y a peut-être des couleurs différentes, etc., des matériaux différents, mais la source, elle est là. Et plaise à Dieu qu'à travers, bien, ce puits étonnant, eh bien, d'autres motards ou d'autres puissent connaître Jésus. Et puis on pourrait multiplier les exemples. Oui, il y a des puits dans la manière dont ils ont été construits qui me dérangent, qui ne correspondent pas à ma façon de travailler, à utiliser certains matériaux. Ça me dérange. Mais n'oublions jamais que la forme, c'est une chose. Si le fond reste, alors on bénit Dieu. Et c'est ce que nous montre, sans négliger, sans mépriser ce que son père Abraham a fait. Eh bien, Isaac, il a construit de nouveaux puits. Mon frère, ma sœur, construisons aussi de nouveaux puits. Pas d'une manière égoïste pour nous, mais aussi pour cette génération, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, pour ceux qui ont besoin d'espérance. Et c'est ce qui va se passer pour Isaac. Il va construire de nouveaux puits. Alors, un puits, on va le contester, un autre, on va le contester, et puis il va arriver au dernier. Il va arriver au dernier. Hein, c'est un joli nom, moi, je trouve. Genèse 26, 22. Voilà. Genèse 26, 22. Il va arriver. Il va creuser un puits. On ne lui cherche pas querelle. On ne l'accuse pas. Et ce puits, il va lui donner un nom. Genèse 26, que je trouve, ouais, c'est un bon nom, ça vient de l'hébreu, hein, c'est pas de moi, mais il partit de là, il creusa un autre puits, il persévère, hein, pour préserver cette intimité, cette communion au travers de la source d'eau. Et il partit de là, il creusa un autre puits pour lequel on ne cherche pas querelle, il l'appela Réhoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans ce pays. Voilà, Réhoboth. Réhoboth, ça veut dire un espace qui est dégagé. Ça veut dire qui est mis au large. Ça veut dire qui est élargi. Ça veut dire un endroit spacieux. Ça veut dire un endroit de repos. Enfin, il y a ce repos. Isaac, il a persévéré pour préserver ses puits d'eau. Il a persévéré pour préserver ses puits. Et que Dieu, ce matin, eh bien, nous encourage, nous aussi, à persévérer, soit à découvrir la source d'eau, mais une fois qu'on l'a découverte, eh bien, à pouvoir la préserver, préserver cette intimité. Finalement, c'est là, parce que tout découle de ça, de notre intimité avec Dieu, de notre relation, de notre proximité ou de notre éloignement. Le reste, ça découle. Le reste, ça découlera. Si je suis proche de Dieu et si je vis des difficultés, des moments difficiles, il saura me ressourcer, m'encourager, me bénir. Par contre, si je suis éloigné, bien, je vais avoir quelques difficultés supplémentaires. Mon âme va s'assoiffer, mon esprit sera plus mûr en eux et ma vie va être complètement bouleversée. Alors, une dernière parole, c'est Matthieu 11, 27. C'est Jésus qui dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui êtes assoiffés, voire déshydratés, et je vous donnerai du repos. Amen. Et je vous donnerai du repos. Ce matin, Isaac, si on peut au moins retenir ça, nous invite à persévérer pour que notre relation avec Dieu, eh bien, puisse être continue, qu'elle puisse être enrichie, hein. Persévérer pour préserver le bien le plus précieux qu'on a, eh bien, cette source d'eau vive, hein, qui est Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on pourrait prier quelques instants avant que notre frère Yves nous conduise aussi dans un temps de louange, de sainte scène, je ne sais pas ce qu'il a prévu, et que ce matin, bien, nous puissions, nous aussi, hein, nous préparer, nous présenter, et puis dire, Seigneur, eh bien, voilà, j'ai besoin. Te remercions, Seigneur, ce matin, parce que nous savons qu'ici-bas, l'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et ta parole nous rappelle et nous fait ce parallèle que notre âme, notre esprit, ont besoin également de cette intimité avec toi, de cette communion avec toi, de cette relation avec toi. Et nous te bénissons, Seigneur, pour l'exemple d'Isaac, qui a su, malgré un contexte difficile, qui a su, malgré l'opposition des ennemis, il a su persévérer pour préserver cette eau et même la développer. Alors ce matin, nous te prions les uns pour les autres, nous te prions les uns avec les autres, afin que tu nous puisses nous aider, Seigneur, à nous approcher et nous rapprocher, et nous rapprocher encore un peu plus de toi chaque jour, afin que notre âme soit désaltérée, afin que nous ressortions de ce lieu fortifiés, encouragés. Il y a des combats que nous vivons dans notre tête, moralement, spirituellement, psychologiquement. On a besoin d'être désaltéré. Notre âme, comme David le dira, bien, a soif de toi, a soif du Dieu vivant. Seigneur, que ta main soit sur lui, que sur nous, et que nous puissions ensemble, eh bien, nous approcher de la source d'eau vive. Tu nous rappelles dans ta parole que le ruisseau de Dieu, il est plein d'eau, il est abondant. Et chacun d'entre nous ce matin, nous pouvons nous y abreuver, un ruisseau d'amour, de pardon, de sainteté, de joie, d'espérance. Merci de mettre à notre disposition cette source ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.